De dire que le thème qui m'est venu à cœur pour ce soir, et ce sera pas seulement dans l'axe de l'évangélisation, je pense qu'il y a vraiment une vraie nécessité de comprendre ce thème-là, au sens biblique et entier du terme, c'est le thème du pardon. En fait, le pardon, il se trouve dans toute la Bible en pointillé. La Bible nous parle de l'amour de Dieu. La Bible nous parle de Jésus, c'est le personnage central, lui-même étant là pour révéler le Père. Et de la première ligne quasiment, en tout cas dans les premiers chapitres jusqu'au dernier, la Bible est ponctuée d'un esprit qui est celui du pardon. Et il serait faux de dire que le pardon, ou il serait limité de dire ce soir, voilà, bah, le pardon, eh bah, oui, les frères, les soeurs, il faut pardonner. Oui, il faut pardonner. Il faut pardonner. Mais ce serait occulter tout ce que représente la notion du pardon. Il arrive d'entendre que l'on parle du pardon comme étant une sorte de « faut pardonner et puis on va passer à autre chose ». Alors ce soir, ça va être une introduction au thème et puis on va aborder les thèmes plus en approfondissement. Mais ça n'existe pas, cette notion de pardon, et puis on passe à autre chose, et puis c'est comme si rien ne s'était passé. Il peut même y avoir une sorte de culpabilité dans le cœur des croyants ou des incroyants, à ne plus savoir vraiment comment gérer des situations douloureuses. Parce que quand on parle de pardon, alors on parle de quelqu'un qui a offensé et on parle de quelqu'un qui a été offensé. On parle de réaction. Quand on parle de pardon, on parle de gens qui reconnaissent avoir fait du mal et aussi de situations de personnes qui refusent ou qui ne sont même pas conscientes d'avoir fait du mal. Et tout ça, dans toutes ces situations-là, on est face à des situations de cœur, d'injustice. Il y a des réactions qui sont, et je préfère déjà commencer à le dire, tout à fait normales. Quand on est face à l'injustice, on n'est pas indifférent. Quand on nous fait mal, quand notre cœur est blessé, on n'est pas indifférent. Nous ne sommes pas insensibles, nous réagissons. Et la plupart d'entre nous, avec clameur, pour ne pas dire même, et pourtant j'emploierai ce mot-là, avec colère. Et donc, il est important de réaliser que derrière la notion du pardon, il y a un ensemble d'événements, il y a un ensemble de réactions, il y a un ensemble d'émotions. Et l'on ne peut pas parler du pardon sans évoquer toute cette dimension qui englobe le pardon. C'est un processus, en fait. C'est un processus avec des étapes. Et à chaque étape, il y a différentes orientations. Ça dépend également de l'intensité de l'offense qui est commise. Si Chantal, en sortant, me marche sur le pied, je pense qu'on va trouver un arrangement de pardon assez rapidement. Mais il y a des situations qui ont détruit des vies. Et là, la situation, que faire? Quel pardon apporter? Il y a même des pardons que l'on n'aura jamais. Est-ce que c'est pardonner devant Dieu? Est-ce que l'affaire est réglée? Autant de situations où on se dit, mais comment dois-je réagir en tant qu'enfant de Dieu? Il y a des souffrances, des situations de gens qui sont dans des colères intérieures parce qu'ils refusent de pardonner. Il y a des gens qui souffrent. On leur dit qu'il faut pardonner. mais en fait ils ne souffrent pas parce qu'ils ne veulent pas pardonner, ils souffrent parce qu'au moment où ils auraient dû, où ils auraient pu exprimer leur indignation, leur colère, leur incompréhension, on a étouffé, on leur dit non, il faut rien dire, tu as été offensé mais tu ne dois rien dire. Mais cela n'est pas biblique. L'offensé a droit de crier. Et nous verrons la différence qu'il y a entre l'expression d'une douleur et manifester de la violence. Et on va voir. On va voir tous ces thèmes-là. Alors, pour illustrer la chose, je vous invite dans la Genèse. Genèse chapitre 3. Je vous le dis, hein, ce soir, c'est une introduction. Et il me semble que c'est la première situation où le pardon a besoin d'être exprimé, où il est exprimé de manière implicite, mais nous allons voir également les différents scénarios qui tournent autour du pardon, et cela dans chapitre 3. Genèse chapitre 3, on va lire les 21 premiers versets de ce chapitre. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Et il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Mais non, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et dit, « Où es-tu ? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, mais pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité de celle-ci. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Et il dit à l'homme, puisque tu as entendu écouter la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. le sol sera maudit à cause de toi. Et c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu en mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu es pris. Car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Mais l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Amen. Dieu crée la terre. Alors, d'une manière que nous ne pouvons pas connaître, mais parfaite, c'est-à-dire sans pleurs, sans soucis, sans maladie, sans stress. Pas besoin de se lever, pas besoin de mettre le réveil le matin, pas de rhumatisme. Tout est beau, tout est clair, tout est limpide, tout est générosité. Une facilité de vie. Dieu crée Adam et Ève dans une pureté, dans une relation, dans une communion avec Dieu parfaite, dans une atmosphère avec une intelligence incroyable. Et voilà, comme nous l'avons lu, que dans ce cadre parfait, tout est gâché. Tout est gâché. Tout est gâché. Là où il se sentait en sécurité, il découvre la peur. Là où il se sentait libre de d'eux-mêmes, il commence à connaître la honte, la peur, la dissimulation. J'ose pas me montrer tel que je suis. Là où ils avaient tout en abondance, ils apprennent que tout va être compliqué. Là où il n'y avait pas la souffrance, il va y avoir la souffrance. Là où ils pensaient ne même pas connaître la mort, Dieu est en train de dire c'est fini, il va y avoir une fin à votre vie. Là où il n'y avait aucune crainte, aucune pleur, il annonce déjà de la souffrance, de la sueur, des larmes. Tout est gâché. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu une expérience de votre vie où tout est gâché, mais ça laisse toujours... J'ai connu un couple. La pire journée où tout a été gâché, c'était le jour de leur mariage. Tout s'est enchaîné. Les retards, la pluie, les gens qui sont pas venus, tout, à tout niveau, c'était la catastrophe. La mariée, elle a fini sa journée en pleurs, quoi, tellement elle n'en pouvait plus, quoi. Il y a des journées comme ça où on pourrait se dire, mais tout est gâché, tout, rien ne va. Et je ne sais pas si on peut imaginer la déception de Dieu. Déception de Dieu. Dieu qui a tout créé pour que Adam et Ève soient heureux, pour que l'humanité grandisse. Lui qui a créé, mais c'est plus qu'un bijou, c'est une merveille de merveilles. Voilà que les deux personnes à qui il confie ça, sur une désobéissance, commencent à gâcher cet immense ouvrage parfait que Dieu a créé. Vous faites un magnifique gâteau, un magnifique plat. Et voilà que votre bambin, il passe et paf, il met tout par terre. Des heures de travail. Comment réagissez-vous?
Bonne question.
Voilà. Vous passez du temps à préparer quelque chose et là, sur un coup de tête, tout s'écroule. Vous réagissez comment?
Colère, révolte.
Oh, mais c'est rien, mon petit chouchou. Oh, mon chéri d'amour. Non! Colère, révolte, indignation, agacement. Oui ou non? Dieu est devant Adam et Ève. il sait, à ce moment-là, que tout est gâché. Il sait que tout est gâché. On va prendre le temps de réfléchir tout à l'heure à la réaction. Est-ce qu'on peut imaginer le poids de la honte et du rejet qui est en train de s'écraser sur Ève? Qui a commencé dans l'histoire?
Ève.
Vous rendez compte? Maintenant, vous êtes ce petit enfant qui a fait tomber le grand gâteau qui était magnifique. La pièce montée pour le mariage, c'est vous qui l'avez fait tomber. Et vous sentez tous les regards de tout le monde qui se tournent vers vous. Vous voyez le gâteau qui est par terre, éclaté, la crème éclatée, le moulin cassé, et vous êtes cet enfant-là, ce moment-là. Vous savez qu'il n'y a rien à faire. Le mal est fait. Est-ce qu'on peut imaginer un seul instant la situation de Ève à ce moment-là? La fautive, non seulement, mais elle en éprouve toute la honte sous le regard de Dieu. Elle est en train de réaliser que tout est en train de changer sous ses yeux. Et comme elle a un super mari, son mari commence à dire « c'est lui, c'est elle hein. ». Même pas un réconfort affectif, moral, « t'inquiète pas chérie, je raconte ». Non! Alors que déjà, elle est en train de réaliser qu'elle a été l'élément déclencheur pour faire tomber la catastrophe, pour tout gâcher. Elle peut même pas compter sur son mari qui, en plus de la honte, est en train de la rejeter. C'est elle, hein? C'est celle que t'as mis à côté de moi?
Non, mais c'est pas.
Comment est-ce qu'elle va vivre cette femme après? Comment est-ce qu'elle va se relever psychologiquement? Quel drame! Non seulement de sa vie, mais sur l'humanité! Il y en a qui se sont suicidés pour moins que ça. Il y en a qui ont pété des plombs pour moins que ça. Et il y aurait raison. Il y a des gens qui sombrent dans une dépression pour moins que ça. Comment cette femme va se relever? Est-ce qu'on peut imaginer la situation de Adam? Celui à qui on a tout confié. Celui qui était le responsable du jardin. Et voyez cette fuite. C'est pas moi, c'est elle. Ouais, mes petits bonhommes, tu es co-responsable. Parce que Dieu t'avait donné la charge de surveiller le jardin. Et il y a dans le jardin un animal des champs. L'animal des champs n'avait rien à faire dans le jardin. Si cet animal est là et que toi tu es présent, parce que l'histoire nous montre bien que si c'est bien Ève qui a mangé la première, qui a croqué la première dans le fruit, elle dit bien qu'elle l'en a donné à son mari qui était à côté d'elle. Ça veut dire que Adam était bien dans la situation de constater qu'il y avait un animal des champs qui n'avait rien à faire dans le jardin. Est-ce qu'il a ouvert la bouche? Est-ce qu'il a fait fuir cet animal? Pas du tout. Adam, t'es aussi responsable par ton silence. Ah mais moi j'ai rien fait, justement. On peut faire du mal en ne disant rien. Il y a les actions fautives par l'acte, mais il y a aussi des actions fautives par la négation, par l'absence d'acte. C'est pas moi. Responsable mais pas coupable. Qu'est-ce que l'on découvre? Qu'est-ce que l'on découvre dans cette situation? Et là, comprenons qu'on garde le fil. Nous sommes sur la notion du pardon. Comment Dieu va réagir devant une telle situation? Oh, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a cette notion de à la place de Dieu, dire oh bah mince, j'ai tout gâché, mais c'est pas grave, je vous pardonne. Pas du tout. Est-ce qu'il y a une indifférence de la part de Dieu? Oh, vous avez tout gâché. Oh, bah mince, alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Oh, mes pauvres chouchous, c'est dommage, hein, vous avez tout gâché. Non. Et l'on voit bien dans les propos de Dieu qu'il y a contestation, qu'il y a colère. Mais alors, bien sûr, la colère de Dieu n'a rien à voir avec notre colère à nous. Et nous aurons l'occasion, justement, je pense qu'on va développer ça mercredi prochain, la colère, la place de la colère. Mais c'est la première fois qu'on entend des mots tels qu'ils sont répétés dans la bouche de Dieu. Tu seras maudit, 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 le dit, il insiste. On sent bien qu'il y a dans le cœur de Dieu de la colère, non pas de cette colère qui cherche à tuer, à détruire, mais il marque le coup. Il ne peut pas avoir cette forme de pardon qui serait idéaliste et qui est mensongère, qui est de « Oh, je ferme les yeux, je vois rien. C'est comme si rien ne s'était passé. » C'est faux. Là où il y a une offense, là où il y a un acte, là où il y a un défaut, là où il y a du dégât, on ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé. On ne peut pas passer en silence. On ne peut pas marquer la chose et sans le relever et sans le pénaliser. Et Dieu condamne. Et Dieu est en train de marquer, d'acter les conséquences des fautes et de la faute qui a été commise. Et nous aurons l'occasion, la semaine prochaine, enfin mercredi je pense, de développer cette notion de la colère. La colère n'est pas malsaine. Elle est une expression normale, naturelle et même nécessaire lorsque l'offensé est blessé. Mais nous aurons l'occasion de développer ça. Qu'est-ce que l'on voit? On voit une femme qui prend conscience de sa faute. Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Elle prend conscience de la raison pour laquelle elle s'est fait avoir. J'ai été séduite et j'en ai mangé. Elle est en train de prendre conscience de la raison qui l'a amenée à offenser Dieu, à détruire le plan, à tout gâcher. Mais ça, c'est un élément que l'on va aussi développer dans la notion du pardon. Il faut qu'il y ait la notion de la reconnaissance du mal commis. Il ne peut pas y avoir de pardon s'il n'y a pas de reconnaissance du mal. C'est pas possible. Il faut qu'il y ait prise de conscience et confession. On appelle ça repentance du mal commis. Pour que après, il puisse y avoir un processus de pardon et de réconciliation. Mais nous avons là, vraiment dans cet exemple-là, cette situation de cette femme qui prend conscience de ses erreurs. Et puis il y a un autre aspect, parce qu'on peut prendre conscience de ses erreurs, on peut prendre conscience et le confesser et le dire et le reconnaître, on peut même recevoir le pardon par la suite. Mais n'empêche que ce que nous évoquions tout à l'heure, c'est la notion de la culpabilité. Cette femme a été la cause de tous nos maux. Je ne sais pas ce que vous avez l'intention de lui dire quand vous allez la rencontrer au paradis, mais...
La même réaction de Dieu.
Et on pensait, mais comment elle va se relever, cette femme? Comment elle va vivre le reste de sa vie? Comment est-ce que vous pourriez vivre avec une telle culpabilité sur vos épaules? Il y a des drames et je me suis moi-même posé la question, non pas en le souhaitant évidemment, mais je me suis déjà dit, mais si un jour je fais un accident de voiture et que voilà, je tue un enfant ou je rends un homme handicapé, mais est-ce que j'arriverai à m'en remettre? Mais cette femme-là a emmené toute l'humanité dans la désolation que nous connaissons. Et elle en est consciente. Comment va-t-elle sortir de sa culpabilité? Et là aussi, il y a dans le processus du pardon des étapes et des éléments essentiels que nous aurons l'occasion de découvrir. Quant à Adam, le responsable n'est pas coupable, c'est pas de ma faute. S'il n'y avait pas eu elle, moi j'aurais pas fait ça. Hein. Franchement. Alors là aussi, on se retrouve avec ces gens. Bon, ça pourrait être nous, hein. Qui semblent complètement étrangers à la faute. Oh, faut pas exagérer, hein. Mais si, tu m'as fait mal. Oh là là là, hé, hey, oh, hein. Toi et ta susceptibilité. Mais oui, mais tu as tort. Peut-être que toi, tu ne réalises pas ta responsabilité dans la souffrance, dans ma blessure, mais tu en fais partie. Et nous voyons, et nous l'avons peut-être vécu aussi, ce genre de situation où nous sommes avec des personnes, elles nous mettent mal à l'aise, elles nous blessent, elles nous gênent, elles nous dérangent, elles nous mettent mal à l'aise. Nous sommes peut-être même meurtris quand on les voit, on ne sait même plus comment se comporter, même notre cœur est peut-être troublé. Mais ces personnes paraissent vivre ça de manière complètement étrangère, comme si de rien n'était. Alors que le seul fait peut-être de penser à ces personnes réveille dans notre cœur des souvenirs et des souffrances. Oh là là, ouais. Faut pas exagérer, hein. C'est pas vraiment à cause de moi, quand même. Hein? Là aussi, nous verrons quelle attitude avoir par rapport à ces personnes-là. Celles qui nous font souffrir et qui ne semblent pas le réaliser. Que dire? Que faire? Mais malgré tout, je voudrais relever quelque chose de noble. Et j'ai même envie de dire quelque chose de grand chez Adam. On se remet dans la situation. Ils ont chacun fait ce qu'ils avaient à faire. Cet immense château magnifique, extraordinaire, s'écroule. Dieu exprime quelques conséquences qu'il y aura. Ils réalisent l'un comme l'autre. Déjà, ça fait quelques temps qu'ils sont dans cette honte, dans cette humiliation. Ils découvrent ce qu'est la peur. Ils découvrent ce qu'est la honte. Ils découvrent la condamnation. Ils découvrent des mots comme maudit. Ils sont en train de réaliser qu'ils sont en train de passer comme des Caraïbes dans un frigo, quoi. Ils sont en train de réaliser qu'ils passent du jardin d'Éden, de délices, à la misère. Dieu a donné toutes ces paroles-là. Et il nous est dit, remarquez ça, au verset 20. Une fois que tout a été dit, Adam donna à sa femme le nom... Oh, stop, un instant, dites-moi. Imaginez que vous avez un collègue de travail, quelqu'un qui fait que des boulettes. Un Gaston Lagaffe, quoi, ok? Comment vous l'appelleriez-vous? Imaginez, vous êtes avec quelqu'un, mais il vous a fait la catastrophe dans votre vie. L'erreur. Comment vous allez l'appeler? L'erreur. Vous avez quelqu'un qui a détruit votre journée du mariage, voilà. C'était celui qui devait être l'organisateur. Et ce jour-là, il se plante à tout niveau. Quel petit nom vous avez envie de lui donner? On n'a pas envie de l'appeler le glorieux, le magnifique. Non, on va l'appeler le gaffeur. Eh, la boulette, hein? Ah, on est très fort pour trouver des petits mots comme ça. Et eh bien, c'est ça qui est extraordinaire. et que Adam ne va pas appeler son épouse. Et relevez bien que c'est la première fois qu'il y a un nom à cette femme-là. C'est maintenant qu'il y a le nom. Et on pourrait se dire, mais cette femme qui a fait chuter l'humanité dans les ténèbres, mais on aurait pu l'appeler, je sais pas moi, la ténébreuse, on aurait pu prendre la trompeuse, on aurait pu l'appeler la séduite, on aurait dû l'appeler je sais pas moi, la pied nickelée d'Éden. Non, aucune référence à ça. Aucune parole déplacée. Adam appela son épouse Ève, qui signifie celle qui dispense la vie, celle qui communique la vie. Mais je trouve qu'il y a une noblesse d'âme dans le cœur d'Adam qui est extraordinaire. Extraordinaire! Car en lui donnant ce nom-là, il ne l'enferme pas dans une erreur d'hier, mais il la projette dans un avenir glorieux. Et les hommes et les femmes de notre génération ne se souviendront plus de cette femme comme étant la catastrophe, la ténébreuse, la gaffeuse, mais comme celle qui communique la vie. Alors là, chapeau Adam. Parce que si moi j'avais été le mari, non seulement je l'aurais condamné, mais toute sa vie je lui aurais rappelé la chose. Je lui aurais mis une étiquette sur la tête jusqu'à la fin de ses jours et jusqu'à l'éternité. Mais voilà que Adam, animé d'un autre sentiment, ou peut-être d'un autre exemple, va donner à cette femme un nom, dispensatrice de vie, qui sera certainement, et c'est ce que nous verrons aussi dans les autres étapes, que le pardon est libérateur. Adam va donner à sa femme une autre identité. Il va lui donner une direction qui va permettre à cette femme de se séparer de sa faute. Il va lui accorder un pardon de manière indirecte, en ne lui marquant pas, en ne n'imposant pas sur cette femme une étiquette qui la projette sur ce qu'elle a fait, mais il lui donne une vocation nouvelle, celle de dispenser la vie. Pourquoi est-ce que je parlais d'exemple? Parce que je crois que c'est Dieu qui leur a donné l'exemple du pardon. C'est vrai que Dieu est en colère. Et nous verrons, hein, désolé si ce soir quelques-uns sont choqués par cette expression-là, mais nous allons développer le thème mercredi prochain. Mais j'insiste, Dieu est en colère. Dieu n'est pas content. Dieu est en colère, il n'y a pas d'autre mot, et nous définirons ce qu'est la colère. Mais une fois que Dieu est en colère, une fois que Dieu a acté les choses, une fois que les choses ont été clairement définies et sanctionnées, alors Dieu montre ce qu'est le sens du pardon. Parce qu'il nous est dit après dans le verset 21 que l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Eux qui avaient fabriqué une ceinture de feuilles de figuier pour cacher leur nudité, ils s'étaient fabriqué un petit truc là. Faut pas voir. Regardez la noblesse de Dieu. Bien sûr, il sanctionne les choses. Mais c'est lui-même qui va prendre la chose en main. Et qui, les voyant dans leur misère, dans leur honte, n'est pas en train de dire « Ah, c'est tant mieux pour vous. Moi, je me lave les mains. J'ai plus de relation à avoir avec vous. Maintenant, vous vous débrouillez. Moi, je vous ai tout préparé, vous avez tout gâché. Et ben, tant pis pour vous, débrouillez-vous avec vos bonnes de feuilles, là. » Non. Et c'est là que je dis que je crois que Adam a eu un exemple au travers de l'Éternel Dieu qui lui a sacrifié un animal. Parce que pour faire des habits de peau, il faut tuer l'animal. C'est la première notion d'un sacrifice dans la Bible d'ailleurs. Et Dieu lui-même en personne a cherché à combler cette honte, cette blessure qu'il pouvait avoir
dans la vie de Adam et Ève. Il lui-même leur a préparé des vêtements. Oui, il y a la sanction, il y a les conséquences. Mais il y a aussi l'accompagnement, le soin.
Les choses ont été dites. Maintenant, on peut passer à autre chose. Non pas dans le mépris, non pas dans l'indifférence, mais dans cet accompagnement.
Il ne faut pas recommencer.
Alors nous aurons l'occasion, au travers de cet exemple et de bien d'autres textes bibliques, d'aborder ces différents thèmes que je vais vous rappeler, le pardon et la colère, le pardon qui a franchi, le pardon et la notion de la justice, la dimension du pardon, le pardon humain et le pardon divin, les différentes formes de pardon, celui qui est accepté et celui qui est refusé, la notion du pardon et de la repentance, et je pense qu'il y aura sûrement d'autres thèmes qui seront abordés autour du pardon. Que ce soir, nous puissions juste retenir que le pardon n'est pas seulement un or, il faut pardonner. Non. C'est pas si simple que ça. Mais que nous puissions retenir que le pardon, c'est un ensemble. Un ensemble de sentiments, un ensemble d'événements, un ensemble d'étapes. Un ensemble de réactions. Un ensemble de choses qu'on appelle un processus. Et qui demande un travail sur nous-mêmes. Et qui demande aussi un travail envers les autres. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à rentrer dans un vrai pardon. Un pardon profond. Déjà avec nous-mêmes. Avec les autres. Et c'est parce que nous saurons bien nous comporter à l'égard de l'autre que nous saurons mieux gérer les colères qui sont dans notre cœur, et c'est en acceptant et en gérant les réactions de notre cœur que nous serons aussi mieux à même d'apporter et d'avoir les meilleures attitudes à l'égard de ceux qui nous ont offensés. Amen.